marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Les archéologues semblent jouer dans un bac à sable. Le pâté de sable renvoie à l'apprentissage de la propreté, au plaisir de la maîtrise de soi et à la découverte des trésors intimes. Justement, les contes de fées, écrits pour les adultes, parlent souvent de trésors. Mais de quel trésor s'agit-il ?
Aujourd'hui, archéologie du cinéma, archéologie du merveilleux pot d'âne. L'archéologie, c'est une discipline d'autant plus exigeante qu'elle se situe au croisement d'innombrables techniques scientifiques. Les spécialistes de celles-ci attendent de leurs interlocuteurs archéologues la plus grande rigueur. Par ailleurs, l'archéologie n'a droit de cité que si, dans les parcours administratifs, elle suit bien les flèches. En France, les fouilles sont de plus en plus des opérations préventives qui interviennent avant que ne commence un grand chantier, et celles qui sont encore entreprises hors de ce cadre n'obtiennent le soutien des directions régionales des affaires culturelles que si elles poursuivent des objectifs compatibles avec la logique généralement admise. Aux professionnels qui pratiquent la classification avec ardeur, celle des époques, celle des objets, etc., il est demandé de suivre exactement leur sillon. Il leur est recommandé aussi de savoir s'adresser au public jeune. Dans le partage de leurs connaissances, les films vont avoir évidemment leur place. On peut faire mieux que projeter la guerre du feu. Le cinéma a beaucoup utilisé l'archéologie et certains de tempérament provocateur inversent même la proposition. Et si on faisait l'archéologie du cinéma ? Ils prennent l'exemple d'un site dans le désert californien où Cécile B. DeMille, une fois achevé le tournage des 10 commandements en 1923, avait abandonné un demi-million de tonnes de décors et de statues. Ceux qui s'étonneraient de l'intérêt que pourrait présenter pareille recherche manquent de l'esprit d'enfance et du goût du merveilleux qui conduisent nombre d'archéologues, du moins les plus provocateurs d'entre eux. Ils jouent dans des bacs à sable, entreprenant avec le plus grand sérieux des travaux absurdes, enfin apparemment absurdes.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
C'est le cas d'Olivier Véler, bonjour.
Bonjour.
Néolithicien, tombé dans le contemporain, et vous étudiez des dizaines d'articles, plusieurs ouvrages, l'un d'eux aux éditions des Belles Lettres il n'y a pas si longtemps. Vous étudiez d'habitude le sel, et le sel qui se dissout.
Je suis un préhistorien du sel, un préhistorien de quelque chose qui ne se conserve pas en fouille, de quelque chose qui est donc invisible aux yeux des archéologues. Et pourtant, en utilisant plein de disciplines, de la physique, de la chimie, de l'anthropologie, de l'ethno-archéologie, on arrive à dire plein de choses sur cet ancien or blanc.
Et vous avez quand même des moments, des brèches dans le temps où vous retrouvez peut-être les souvenirs de votre enfance à 7 ou 8 ans. On va expliquer comment, en prenant la direction de Gambais. Alors Gambais, c'est 2000 habitants à peu près, à la lisière de la forêt de Rambouillet. Il paraît qu'il y a un dolmen encore visible.
Oui, un menhir aussi, oui.
Les Carnutes.
Tout à fait.
Tribu gauloise. Le château du Moyen-Âge s'appelait le château Trompette. Il était habité par du Guesclin, vous confirmez ?
Oui.
Et puis il y a deux demeures qui s'offrent, l'une à la location, l'autre à la vente. Location d'abord.
Au cœur d'un parc de 100 hectares, à seulement 50 km de Paris par voie rapide, le domaine de Neuville vous accueille dans un site historique prestigieux pour vos événements, mariages, tournages de films ou séminaires. Cette demeure à la beauté imposante qui a conservé son pont-levis date du XVIe siècle. Vous emprunterez les chemins propices aux balades qui sillonnent l'immense parc pour rejoindre son romantique étang. En rejoignant le domaine de Neuville, vous vivrez des moments impérissables.
Et puis, il y a à la location une demeure un peu moins grande et qui s'appellerait la Villa Tric.
La maison est à vendre, mais l'agence immobilière n'a pas souhaité nous la faire visiter. L'annonce précise, parc arboré de 6000 mètres carrés, avant d'inscrire tout en bas, très belle maison chargée d'histoire.
Ah oui, ben, chargée d'histoire, oui, parce que c'est la maison de Landru. Il l'a habitée de 1915 à 1919. Il y a découpé les 7 dernières de ses 11 victimes.
Bien que les notes de Landru nous révèlent qu'en 2 ans, il a acheté 792 scies à métaux, comment imaginer qu'il ait pu faire brûler 10 squelettes dans un foyer qui n'est guère plus grand qu'une gamelle de soldat.
Alors, vous avez participé aux fouilles, donc ?
Oui, j'ai participé au ramassage des os qui se trouvaient dans le bâtiment au fond, là-bas, sous le hangar, en petit tas. Il y en avait peut-être une vingtaine.
Une vingtaine d'os ?
Une vingtaine de tas.
De tas ?
Oui, on a rempli une mesure qui est 50 litres d'ossements calcinés. Et j'en ai, comme qu'un gamin à 19 ans ou 20 ans, j'en ai ramassé quelques-uns à mes poches.
C'est dans une boîte ?
Ah, dans une boîte d'époque.
D'époque, bien entendu. Alors, pardon. D'après les experts, ce sont des ossements humains.
D'après les analyses qui ont été faites à l'époque, ça a été
certifié
comme des ossements humains.
Oui, c'est précieux, n'est-ce pas ?
Oui, on va en monter quelques-uns en broche.
Oui. Seulement voilà, l'enquête prouvera aussi que l'idiot du village de Gambet s'est livré à de mystérieux voyages entre le cimetière qui est à deux pas et la maison de Landru. Et mieux, des journalistes reconnaîtront avoir semé en manière de farce des ossements dans le jardin de la fameuse villa. Alors ?
Alors, extrait de La tête et les gens 1976, ben, ça me paraît une évidence pour un archéologue, c'est foutu quoi. Le pont-levis est levé, il y a des pillards qui sont passés, notamment des journalistes, tout est dispersé, il faut aller ailleurs.
Pas obligatoirement aller ailleurs, parce que en fait la police à l'époque, donc c'était les brigades du Tigre hein, quand même, les premières brigades mobiles de Paris, en fait elles ont investi, perquisitionné la maison de Landru et fouillé en fait un peu, comme le dit d'ailleurs le reportage, un peu au hasard, en faisant 20 petits trous à gauche à droite et puis en épluchant les 20 tas. Donc en fait il n'y a pas eu de recherche systématique sur ces 6000 mètres carrés de jardin. Et donc en fait il reste, rappelons qu'il a été condamné pour 11 victimes, 10 femmes et un enfant, et en fait il a quand même rencontré 283 femmes à travers ces petites annonces, donc peut-être encore des choses à chercher.
Bon, alors c'est une affaire de méthode, mais vous avez préféré travailler dans un domaine beaucoup plus vaste, le château de Neuville, qui a un parc de plus de 100 hectares. La Seconde Guerre lui avait été néfaste, occupée par les Allemands puis les Américains, et à partir des années 60, les propriétaires, la famille de Labrif, ont décidé de remettre en état le château. Ils l'ont souvent loué pour des tournages, La vie de château, 66. Alors, vous auriez pu faire Cyrano de Bergerac, Rapneau, Les liaisons dangereuses, Frères, Ridicule, le conte, non ? Et pourquoi Peau d'âne ?
Alors d'abord, Peau d'âne, parce que c'est un conte de fées, donc c'est une histoire longue, et puis surtout parce que l'équipe de tournage donc, qui utilise parmi ces trois châteaux le château de Neuville, à Gambet, après son tournage à l'été 1970, laisse tout derrière elle. La cabane, la maison D'accord. de la fée, les décors, elle laisse tout en place.
Mais alors, des aveux, vous avez vu Peau d'âne à quel âge ? 2000, lui, il a vu Blanche-Neige et les Sept Nains à 7 ou 8 ans. Et puis après, La Belle et la Bête de Cocteau. C'est un fort souvenir pour vous, Peau d'âne ?
Donc, oui, alors personnellement, c'est aussi une archéologie. C'est à la fois une archéologie de l'imaginaire que de s'intéresser au cinéma, mais c'est aussi une archéologie de l'enfance et peut-être aussi de son enfance. À savoir, moi, j'ai vu Peau d'âne à 8 ans avec mon frère et ma sœur, on adorait le cinéma de Demy, on rejouait nous-mêmes et on chantait le cinéma de Demy. Donc effectivement, c'est aussi une archéologie de sa propre histoire dans laquelle on s'est lancé.
Alors, un conte rimé par Perrault 1695, une origine plus ancienne, ça appartient au cycle de Cendrillon. Bah, un homme comme vous dirait que c'est ancré dans des structures préhistoriques ?
Tout à fait, probablement oui. Et c'est ça en fait que notre film Peau d'âme essaye de rechercher, c'est-à-dire que c'est pas seulement fouiller des décors de cinéma, c'est fouiller un conte de fées. Et fouiller dans son origine, Perrault en fait en 1694 ne fait que recopier, si j'ose dire, un conte napolitain qui lui-même s'inspire de contes plus anciens. Et si on joue, n'oublions pas que Peau d'âne, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte une histoire d'interdit, d'inceste. Un père, un roi, qui veut prendre pour épouse sa fille.
Jean Marais, Catherine Deneuve.
Jean Marais, Catherine Deneuve, voilà. Et qui explique donc comment la princesse doit fuir et va trouver un prince, évidemment, à l'extérieur. Donc ça explique aussi comment la difficulté pour les filles à l'époque de se marier dans une société très, très patriarcale.
Et il y a la fée qui indique le bon chemin, Delphine Seyrig, et le prince, c'est le jeune Jacques Perrin. Alors vous avez trouvé plein de documents écrits, parce que quand vous travaillez sur le sel au néolithique, rien. Mais là...
Alors voilà, en tant que préhistorien, j'ai ni les archéologues, ils travaillent avec, j'allais dire, avec des os, donc avec des squelettes, des gens qui n'ont ni la parole. Et puis là, quand on est préhistorien, on n'a même pas les textes pour s'appuyer, pour appuyer nos enquêtes. Donc là, en basculant en 1970, grâce à l'aide de la famille Varda Demi, bah effectivement, j'ai pu avoir accès à toutes les archives.
Mais attendez, il y a les carnets de la Scripte, par exemple.
Alors les carnets de la Scripte ont malheureusement disparu, et c'est en fait les carnets, c'est un peu la mémoire du film. En revanche, il y a toutes les photos de tournage. Et par exemple, petite histoire amusante, les choses qui nous donnent le plus d'informations dans les photographies en 24-36 de l'époque, c'est les amorces de pellicule qui étaient faites au hasard. Vous savez, ces fameuses photos et les photos 36 de la pellicule, et qui sont faites au hasard, et c'est ça qui nous informe sur la structure du décor, comment a été l'herbe, comment a été la toiture.
Il manque les maquettes pour l'essentiel. Alors, comment était l'herbe, comment était la toiture? Peau d'âne, dirigée par la fée Delphine Seyrig, va se mettre dans une peau d'âne presque encore vivante, n'est pas très facile à porter, ni très flatteur pour Catherine Deneuve, et on lui indique le chemin de l'endroit où elle va devoir vivre en souillant la cour d'une ferme, et elle est évidemment moquée par toutes les jeunes filles. Je crois que Rosalie Varda, la fille de Demi et de Varda, figurait d'ailleurs dans la cour de ferme.
Regardez cette allure! On ne peut distinguer ses mains de sa figure. Avec ses poils partout, ça me fait grand dégoût. Elle n'aura guère de chance de rencontrer le prince. Avant de l'embrasser, il faudra qu'il la rince. De la tête aux talons, sa peau doit être rancée.
La vieille m'a dit sur l'heure, il faut que tu me ranges. L'écurie, les communs, les étables et la grange.
Sais-tu en quel honneur?
Et comment le serais-je?
Le prince cher seigneur viendra nous voir dimanche.
Comme sa majesté, il aime la propreté.
Ce n'est pas comme celle-ci.
Ah, c'est la dégoûtante.
Dégarpissons bien vite.
Elle empeste d'ici.
On dit qu'elle est méchante.
Tu devrais te cacher. Si le prince te voit, il pourrait se fâcher, exiger ton renvoi. Comment t'appelles-tu, très noble courtisane?
Je travaille à la ferme, on m'appelle Poudin.
Et c'est ta peau qui pue? Je crois que c'est son corps. Je n'ai jamais rien vu d'aussi laid jusqu'alors.
Qui inspira la bonne idée s'adresser à Rosalie, la fille d'Agnès Varda et de Jacques Demy? Le lutin, peut-être?
J'aimais pas beaucoup mon costume de fermière. J'avais mal aux pieds dans les sabots en bois. Je préférais être habillée en princesse.
Oui, mais tu l'as fait quand même, là. Tu t'es circulée parmi les dindons, là.
Bah, oui, parce que c'était la scène de la ferme. Et Catherine, elle avait ses seaux, la peau d'âne, les sabots en bois. Pour elle aussi, je pense que cette scène, c'était difficile.
Et puis, c'est très chaud, si j'ai bonne mémoire.
Ça sentait très mauvais, le fumier, parce que c'était du vrai fumier.
Et c'était un vrai film que Jacques était heureux de tourner. La princesse, comme ça, se cachant sous une peau d'âne dégoûtante, ça lui plaisait.
Agnès Varda a tourné en Super 8 le tournage de Peau d'âne. Et vous, avec Pierre-Oscar Lévy, vous co-signez un film que vous avez cité tout à l'heure, Olivier Véder, Peau d'âme, consacré au compte-rendu des campagnes de fouilles que vous organisez à Neuville, avec donc le concours de témoins vivants. Ça, c'est important pour un archéologue comme
oui,
vous.
Oui, donc un film qui est encore en salle à Paris et qui est disponible en VOD sur la plateforme de notre distributeur Shellac. Et donc, effectivement, qui va convoquer à la fois l'archéologie et puis surtout, effectivement, les archives à la fois textuelles et donc les témoins aussi, ceux qui ont encore des souvenirs. Et on s'aperçoit qu'en croisant, en fait, j'allais dire, la réalité matérielle de la fouille et les témoignages, les souvenirs, que les souvenirs sont pas du tout fiables. Pas du tout fiables.
La cour de ferme, il n'en reste pas grand-chose.
Alors la cour de ferme, donc l'équipe de tournage abandonne un puits, un lavoir, et puis une sorte de petite porcherie d'ailleurs autour de laquelle on voit apparaître pour la première fois au cinéma Coluche. C'est sa première apparition cinématographique.
On n'a pas donné la date 1970. Hein,
1970, oui. Ouais. Juillet 70, là, le
donc
tournage.
Ça se dégrade en presque un demi-siècle.
Et puis surtout, ce qui explique un des propos propriétaire du château dans le film Peau d'âme, et ben c'est qu'en fait la cour était encore utilisée par un agriculteur. Et donc non seulement ça se dégrade avec l'hiver, avec l'été, dans l'été l'hiver, et ce qui est conservé dans le parc, dans la forêt, est mieux conservé. Et puis surtout l'agriculteur, il a besoin de récupérer l'espace de la cour intérieure.
Alors, les propriétaires du château, la famille Labriffe, vous connaissiez d'ailleurs l'un des enfants?
Voilà, puisqu'un des enfants est en fait un collègue à moi, archéologue, Pierre Arnaud de Labriffe. Et donc, tout est né en fait à une machine à café lors d'un colloque en 1999 qui avait lieu à Nantes, la ville de naissance de Demy, lors d'une banale conversation, donc en train de boire un café, sur le cinéma de Demy. Et donc, qui me raconte son souvenir d'enfant, en fait, de Peau d'âne, un souvenir du film qui n'est pas dans le film de Demy, donc je m'interroge, et il m'explique, mais j'avais 8 ans, ça a été tourné dans la propriété familiale, et comme tout archéologue, il se souvenait de petits détails techniques absolument étonnants.
Alors on va l'entendre ici, en conversation avec sa sœur, avec vous. Nous sommes maintenant sur un lieu mieux conservé et de très haute importance, la cabane que le prince Perrin essaye d'escalader, il monte sur le toit, non sans difficulté, et puis c'est dans la cabane que, ayant convoqué toutes sortes d'objets qui donnent du luxe à cet endroit pauvre, Catherine Deneuve va préparer le cake d'amour. C'est le cake d'amour, la fève dans le gâteau, ça, des rois, ça viendrait de Peau d'âne?
Ah, c'est ce que ça vient de Peau d'âne? Non, là, je n'irai pas jusque-là. Mais en revanche, c'est la même idée, oui, de l'objet caché à l'intérieur d'une pâtisserie, oui.
Alors moi, j'ai des souvenirs de la cabane de Peau d'âne, mais déjà en assez mauvais état. C'était, on passait devant, on la voyait, on n'avait pas trop le droit d'aller jouer. Moi, j'ai le souvenir d'un toit effondré, oui.
Donc Pierre Arnoux, votre frère, lui, il a le souvenir d'être rentré dedans et d'avoir joué.
Alors,
à l'intérieur.
Alors ça, c'est possible, parce qu'il est un peu plus vieux que moi.
Et qu'au bout de 2 ans, la maison, elle a commencé à vriller, ouais. Elle menaçait de s'effondrer,
ah oui,
et les parents
ça.
Ont demandé alors de l'abattre et ouais. De la nettoyer. Donc ouais. En 71, été 71...
Peut-être un petit peu après. C'est peut-être, je ne sais pas, 73 ou 74.
Ah oui, donc ça veut dire qu'elle a tenu presque 5 ans, 4 ans ou 5
ouais.
Ans.
Enfin après, il faudrait vérifier, mais je pense que c'est à peu près dans
ouais, le souvenir de Pierre Arnaud, c'était 2 ou 3 ans.
Ah oui.
Mais vous me dites plus. Mais lui, il jouait à l'intérieur.
Les témoignages ne s'accordent pas.
Non, là-bas, il y a une grosse brique, je dirais. Ouais.
Les fouilles vont-elles si permettre d'y voir clair?
Oh, quelle misère. Par quoi commencer? Le lit. Une chaise. La table. Un miroir. Un chandelier. Et ma cassette.
Je crois que... Elle est posée sur cet arbre.
D'accord.
Et elle est plutôt dans cet axe-là, avec la porte qui donnait ici sur le chemin. Et je pense que ces deux pierres, ça je suis pas sûr, hein, correspondaient grosso modo au four du gâteau d'amour. Je pense que c'est ça. Et la cabane donc se trouvait plutôt un peu comme ça.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Plusieurs campagnes de fouilles sur le site à Gambais, au château de Neuville, du tournage de Peau d'âne de Jacques Demy avec Olivier Véler. Là, vous avez eu le secours d'un autre témoin de l'époque, Agostini, qui était assistant.
L'assistant du chef opérateur, oui. Hein, vraiment, j'allais dire un témoin clé, parce que les techniciens se souviennent beaucoup mieux des tournages que les acteurs eux-mêmes. Et alors, Yves Agostini, ce qui est amusant, c'est qu'il nous dit « Oh ben non !» Donc il se souvenait pas très bien de la position, mais il suffit qu'il fasse le geste du cadre, de son travail, en fait, le geste professionnel, pour que ses souvenirs reviennent. Et sur le terrain, effectivement, il suffit qu'il fasse le cadre et tout d'un coup, il se souvient de la calèche qui arrive pour aller commander le fameux cake d'amour à la princesse. Et en fait, c'est amusant parce qu'il nous dit « Ah mais non, nous, on laisse rien derrière nous. » Et on s'est évidemment aperçu qu'avec la fouille avançant, qu'on trouvait énormément de choses.
C'est un lieu transitoire, au sens psychanalytique du mot, cette cabane. Qu'est-ce que ça provoque comme réflexion, la cohabitation dans le même espace, d'objets luxueux et de témoins de la vie paysanne des objets luxueux naissants de la, du pouvoir, de la puissance de Catherine Deneuve.
Ouais, oui, c'est un lieu magique parce qu'il est à la fois sauvage dans la forêt, il est à la fois brut, il est à la fois pauvre et riche, et juste et toute la et Demi réussit magnifiquement à mettre en scène ce passage, entre autres du cake d'amour, en doublant la princesse. Et la princesse est double, tout est double dans cette cabane. Donc c'est à la fois un lieu de réclusion et c'est à la fois un lieu de construction.
Et puis c'est le lieu où le prince et Catherine Deneuve, comme un frère et une sœur, plus que comme des amants, se retrouvent dans une brèche du temps.
L'amour s'enroule et puisse nous, amour, amour, m'a rendu fou. L'amour fait souvent grand tapage au plus bel âge. Il crie, il déchire et il ment, pauvre serment. Il fait souffrir tous les amants qui n'ont pas su tourner la page. Amour, amour, n'est pas bien sage.
Dès l'enfance, le genre mi-parler, mi-chanter vous avait séduit?
Ah, moi j'adorais, ah, complètement. Complètement, j'adorais. On a appris les chansons à une vitesse d'ailleurs avec mon frère et ma sœur. Ah oui, mais déjà dès les parapluies de Cherbourg, c'est-à-dire dès 1964.
Les critiques, les historiens de Demi disent parfois, alors ce film, pour Dan, au fond, il aurait été mieux en studio, ce qui aurait été une catastrophe pour vous, Olivier Véler.
Mais non seulement je pense que ça aurait été une catastrophe pour moi, en tant qu'archéologue, mais surtout pour le film lui-même. Parce que ce film, s'il est devenu à la fois mythique, à la fois, j'allais dire, transgénérationnel, c'est-à-dire que 50 ans après, on continue à le programmer tous les Noëls à la télévision, c'est justement parce qu'il a un côté ancré dans la réalité. Il
ben
a
oui,
un côté
réel. Le budget a été divisé par 3 ou 4. La productrice Mac Goddard n'a pas réussi à rassembler tout l'argent nécessaire. Il a fallu bricoler.
Donc c'est ça, voilà. Et on le voit bien, le côté bricolage, quand on regarde le film de près. On voit bien les ratés, il y a plein de faux raccords, il y a des petites pièces qui tombent, il y a des brillants, on voit bien que c'est des ampoules. Mais c'est pas grave, c'est ça qui en fait toute la magie.
Et alors tout ce qui tombe, des brillants qui ne sont pas des diamants, n'importe quoi, une boutique, une bouteille de soda Very Good, une sucette Pierre au Gourmand, tout ça, ça va passer dans les filets des archéologues.
Si on est attentif, par exemple, regardez, hop, un bout de verre.
Un bout de verre, oui.
Un autre bout là qui brille, il y a énormément de clous, de bouts de ferronnerie. Bah regardez, par exemple, ça doit être un élément technique du tournage.
Ah oui, ça c'est certainement un serrage de projecteur qui s'est cassé.
Nous on a fait une prospection dans la zone de la cabane et tout autour, et on a plus de 1000 anomalies métalliques dans le sol.
Les machinistes ne laissent rien traîner, généralement. Hein.
T'as trouvé quoi, Joël?
Si seulement je le savais.
Ça ressemble à quoi?
Ça sonne comme du métal, sauf que c'est blanc et vert comme du bronze.
Vert comme du bronze?
Oui, monsieur.
Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette bête?
Ça me fait fouiller des trucs.
Ah, oui, effectivement.
Au début, j'ai cru que c'était un morceau de canette.
Et en même temps, ça n'a pas la densité du métal.
Mais ça sonne, la truelle sonnait vraiment contre. Et en fait, tu vois la poudre verte?
Ouais.
Il y en avait pas mal d'amas partout, un peu autour. Donc au début, on a vraiment cru que c'était du bronze. Tu vois, il y en a quelques-uns. Ah merde, il y en a un autre morceau
ça,
là.
Ça, c'est la déformation professionnelle de bronze.
Bah oui, complètement. Mais ça fait...
Et le blanc, c'est quoi le blanc?
Regarde. Je sais pas, non, mais j'ai suivi, moi.
Donc ça peut être de la peinture?
Ça peut être de la peinture sur du plâtre.
Oui.
Et de la peinture,
mais sauf que c'est un peu
lourd, ça fait...
C'est trop dense,
c'est
là,
trop dense.
Par rapport aux,
et regarde,
par rapport
tu
aux
vois
éléments
ça
d'enduit.
C'est de la poudre, quoi.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Donc on dirait...
Peut-être petit nettoyage et faire une petite photo avant que ça parte complètement en poussière.
Ça marche.
Et ce silex taillé là que vous avez trouvé, qu'est-ce qu'il faisait là?
Oui, deux éclats de silex taillés du paléolithique moyen, donc très très vieux, oui. C'est amusant parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, sur un peu moins de 100 mètres carrés de fouilles, donc autour de concentré sur, autour de la cabane de Podane, on a 4000 objets qui raconte à la fois, j'allais dire, le film, c'est-à-dire des objets qu'on voit à l'écran, comme les strass, et entre autres des strass, des petits diamants cousus sur la robe couleur soleil qui sont tombés au sol.
Des faux diamants.
Oui, des strass Swarovski, mécousues, perforées, et sachant que les trois robes utilisées par Jacques Demy ont disparu, on a les seuls restes de ces robes. Puis on trouve aussi des objets de la vie domestique, des mégots de cigarettes, des capsules de bière, des fûts de cigarettes.
J'entends, mais ces poteries là que vous faites analysées par des spécialistes de la céramique, voilà, et qui s'avèrent être du XVIIIe siècle.
Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, l'archéologue, il est souvent atteint du syndrome de Pompéi, c'est-à-dire qu'il pense que tout est là, tout est en place. Et là, on s'est aperçu assez rapidement en fait, qu'il y avait plusieurs époques. Alors non seulement ces céramiques en fait, qui datent de la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, en fait, proviennent de boues urbaines et d'aménagements du château d'adduction d'eau dans le parc, donc n'ont aucun rapport avec Pau d'Âne. Et parallèlement, la sucette Pierrot-Gourmand dont vous parliez, en fait, n'appartient pas au tournage, mais appartient aux enfants, c'est-à-dire les propriétaires, qui ont réoccupé la cabane donc, pendant 4 ans.
Distinguer donc, les objets des décors, les objets liés à la vie du tournage et les objets liés à la vie des enfants de la famille de Labrif. Vous trouvez que c'est très très important de savoir davantage sur la conservation d'un mégot dans la terre,
évidemment,
parce que ça permet de faire... Ça prépare. J'imagine que vous dites, ouais, ça pour vous rendre utile à la société.
Non, pas
seulement.
Des
référentiels pour des matériaux,
oui,
mal explorés.
J'allais dire, c'est préparer l'archéologie du futur. C'est ça, en fait. Donc, des matériaux qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, mais qu'on connaîtra bientôt en fouille, à savoir des gommes, des plastiques, des polymères, du polyester, voilà, les mégots, bon, c'est le cas le plus classique. Ben en fait, on prépare l'archéologie du futur, d'une part. D'autre part, ici, en tant que préhistorien, on a l'occasion de croiser en fait, nos raisonnements construits à partir du matériel archéologique avec les témoignages et avec les archives textuelles ou photographiques de l'époque. Donc en fait, on peut tester nous-mêmes nos propres raisonnements et à montrer à quel point parfois on se trompe ou parfois, effectivement, on est bon. Et encore, et je rajouterais qu'on peut tester aussi les analyses, en fait. Donc, ce qu'on aimerait faire, là, si on arrive à obtenir le financement pour la prochaine campagne et les analyses physico-chimiques qu'on aimerait développer, c'est, par exemple, des analyses ADN sur les mégots de cigarettes, du radiocarbone et aussi les mégots ou les fumes cigarettes.
Non, mais je grogne parce que datations. Je fais le fonctionnaire de la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui quand même fort raisonnablement vous a refusé le financement, à tel point que après campagne, vous êtes obligé de faire du financement privé.
Alors, pas privé, là c'est un financement participatif.
Que DRAC, vous allez lancer.
Voilà, qui est lancé, qui est en ligne sur Ulule, Archéologie du Merveilleux. Et en fait, la DRAC ne nous a pas interdit. Elle nous a ni autorisé, ni interdite. Elle s'est juste dit, ce que vous faites n'est pas de l'archéologie, ce n'est pas de notre compétence. Donc, ce que vous faites, aux yeux du ministère de la Culture, ce n'est pas de l'archéologie.
Alors, l'archéologie du cinéma, vous avez maintenant des argumentaires pour dire que elle serait intéressante. Ça serait intéressant d'aller faire des fouilles sur ce qui reste des amants du Pont-Neuf, de Léo Carax, dans la région de Montpellier. Ce serait intéressant, on parlait de Star Wars tout à l'heure, de faire des fouilles tournage de Star Wars.
Là, l'intérêt, c'est que c'est l'archéologie d'un conte de fées, dans le cas de Pau d'Âne de Demy. C'est-à-dire qu'on touche non seulement au cinéma, mais on touche à cette histoire, à l'archéologie d'un récit, l'archéologie d'un imaginaire. Et donc, on remonte dans le temps en prenant comme support le film de Demy de 1970. On remonte à Perrault, on remonte au conte napolitain plus ancien du XVIe siècle. On va arriver à l'Égypte pharaonique et même, pourquoi pas, à la grotte Chauvet dans de l'art pariétal. C'est-à-dire, c'est la construction
c'est-à-dire que
du récit.
Donc, film ce pour cinéma, se termine par voilà, les images de la grotte Chauvet.
Tout à fait, oui.
Expliquez-moi quand même le fil.
Le fil,
je veux bien qu'un conte de fées ce soit une brèche dans le temps, mais le
c'est
fil
plus qu'une brèche,
Chauvet.
C'est un fil, en fait. C'est un fil. Qu'est-ce que raconte Pau d'Âne ? L'interdit de l'inceste. Claude Lévi-Strauss nous disait lui-même que pour qu'une société humaine vive, se reproduise, le premier interdit fondateur d'une société, c'est interdire l'inceste. Si ce n'est pas ça l'origine d'une société, et si l'archéologue n'a pas un mot à dire là-dessus, je ne comprends pas mon métier.
Parce qu'au fond, Catherine Deneuve, elle aurait bien accepté quand même de coucher avec son père. Elle était tentée. Hein. Vous ne le sentez pas ça dans le début du film ?
Alors moi, je dirais non. Et je dirais que les archives que j'ai pu éplucher, au contraire, on ne la voit qu'avec François Truffaut dans la cabane.
Très bien, Olivier Véler. Donc sur notre site, toutes les indications et sur les projections dans deux cinémas de Paris et sur le financement participatif de votre prochaine campagne. L'émission a été préparée par Franck Olivard, Audrey Ripouille à la réalisation, Michel Bézikian à la technique.